Le débat du jour. Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le Sénat français a adopté aujourd'hui par un vote solennel sa version de la loi bioéthique avant que celle-ci reparte à l'Assemblée nationale pour sa deuxième lecture. Cette loi dont l'examen a été repoussé de plusieurs mois est présentée comme la grande réforme sociétale du quinquennat avec notamment l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. Comme toutes les lois bioéthiques qui se sont succédées, elle doit permettre à la législation de s'adapter, de répondre aux avancées techniques de la médecine, et celles-ci sont nombreuses, notamment en génétique. Elles défient parfois ces avancées l'imagination. Faut-il autoriser ce que la science rend possible? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous ce soir. Catherine Bourguin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en génétique humaine et sociologue des sciences, membre du comité d'éthique de l'INSERM, spécialiste des technologies de génomique. Et Pierre-Henri Gouillon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, auteur du livre « Fabriquer le vivant ?», point d'interrogation, c'est aux éditions La Découverte. C'est un dialogue entre le philosophe Miguel Benassayag et vous autour de la biologie moléculaire et du projet du génie génétique. Oui, c'est une question quasiment philosophique ce soir. Les sujets de bioéthique en appellent à la conscience, aux convictions religieuses ou philosophiques de chacun. Et c'est pour cela que ces sujets sont difficiles. Est-ce aussi pour cela qu'ils réclament du temps et des adaptations plus ou moins régulières, Catherine Bourguin? Est-ce qu'il faut prendre du recul pour traiter de ces sujets?
Oui, parce que la tentation, c'est de réfléchir au coup par coup en fonction de questions individuelles. Et l'enjeu fondamental de ces lois, c'est de réfléchir aussi, je dirais même surtout, les conséquences collectives de ces évolutions à faire ou à ne pas faire.
Pierre-Henri Gouillon, il faut prendre un peu de recul, voir comment les choses se développent avant de légiférer?
Il faudrait, mais... Vous oubliez que dans l'ensemble des forces qui jouent, il n'y a pas que les aspects religieux, philosophiques, etc. Il y a aussi d'énormes aspects financiers et que ces aspects financiers sont très, très moteurs. J'ai l'habitude de dire que si vous arrivez à allier la souffrance des gens et des finances suffisantes, eh bien, vous ferez jamais aucun comité d'éthique n'arrivera à arrêter le rouleau compresseur que vous fabriquez avec ça. Donc, en réalité, faudrait qu'on prenne du recul, mais le recul, tout ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est que la bioéthique recule tout le temps devant les contraintes que fabriquent ces problèmes financiers.
Catherine Bourguin, cet aspect économique, il entre évidemment en ligne de compte. Est-ce que c'est un peu se battre contre des moulins à vent, peut-être?
Alors moi, j'ai envie d'être un peu moins pessimiste, peut-être. Mais c'est fondamental aujourd'hui. Toutes les biotechnologies dont on parle, hein, que ça soit la génétique sous toutes ses formes en particulier, sont des énormes marchés mondiaux, aussi bien dans le domaine agricole que dans le domaine de la santé. Les forces à l'œuvre sont énormes. Et si on ajoute à ça le fait que la science est aujourd'hui sommée d'être au service des intérêts économiques avant toute chose, les laboratoires de recherche de plus en plus sont poussés à être dans cet esprit d'innovation, de marchés internationaux, et donc évidemment que ça percole hein, sur ces réflexions de régulation.
Est-ce que ce n'est pas se condamner avec cette façon de nommer des gens dans un conseil national consultatif d'éthique qui discute de nouvelles possibilités offertes par la science? Est-ce que c'est pas se condamner à être perpétuellement en retard, Pierre-Henri Gouillon, par rapport à ces intérêts qui travaillent de toute façon?
On peut craindre d'être en retard, mais moi, on peut aussi souhaiter d'être en retard sur certaines choses. Je voudrais rappeler que...
Ça, oui.
Dans les années 30, eh bien, il y avait une démarche qui était très, très active dans les pays anglo-saxons parce qu'elle correspondait aux connaissances de l'époque et à l'idéologie de l'époque. Ça s'appelait l'eugénisme. On stérilisait les gens dont on considérait qu'ils avaient des mauvais gènes. 65 000 personnes ont été stérilisées aux États-Unis parce qu'ils étaient considérés comme génétiquement inférieurs et encore plus dans les pays scandinaves et encore plus en Allemagne, évidemment. Or, il y a un journal américain de médecine qui a titré « Attention, les Allemands stérilisent plus vite que nous, il faut augmenter nos cadences pour rentrer dans la compétition internationale ». Et ben, je pense que c'est un bel exemple de ce que peut donner une vision de compétition internationale sur ce genre de questions d'éthique. Pour moi, la compétition internationale, c'est pas elle qui peut justifier quelque chose si on considère que c'est pas correct sur le plan de l'éthique. Il est possible que certains pays fassent des choses qu'on trouve répréhensibles. D'ailleurs, ça existe actuellement. L'exemple que je prends souvent, c'est l'exemple de la pédophilie. Il y a des pays dans lesquels on peut avoir des activités pédophiles sans avoir d'ennui. Simplement, nos pays ont su légiférer pour interdire qu'on le fasse, y compris dans ces pays. Donc, nos législations sont capables d'interdire des choses, même si jamais ces choses sont faites ailleurs que dans nos frontières.
Catherine Bourguin, là-dessus, est-ce que c'est par un petit peu de plus en plus difficile, dans un monde mondialisé comme dans celui lequel nous vivons, de légiférer pour soi-même et, enfin, il y a des avions, les gens peuvent voyager, enfin, c'est, voilà.
Oui, mais il y a aussi des normes d'acceptabilité dans les sociétés qui sont pas les mêmes. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Pierre-Henri Gouillon. L'enjeu fondamental, d'ailleurs, le Conseil consultatif national éthique, quand il a organisé en 2018 les états généraux de la bioéthique, avait mis comme titre de ces états généraux « Dans quel monde voulons-nous vivre demain ?» C'est quand même cette question-là qui se pose. Les technologies qu'on autorise ou pas aujourd'hui sont celles qui vont formater le monde dans lequel on vivra demain. La forme de médecine qu'on va avoir, mais la forme de la façon de faire des enfants aussi. Donc, ce sont quand même des questions fondamentales dans nos sociétés. Et donc, si on commence à dire que là-dessus, on fait rien de national parce que aux États-Unis ou je ne sais quel autre pays du monde, c'est comme ça. À ce moment-là, à quoi ça sert de vouloir faire de la politique ?
Il y a des pays qui ne régulent pas du tout sur ces questions ?
Non, il y a des régulations quasiment dans tous les pays. Après, c'est pas les mêmes. Hein. Mm-hmm. Et puis, ça passe pas forcément par la loi. Parce que, pour le coup, cette idée d'avoir une loi de bioéthique n'est absolument pas reprise dans tous les pays. Il y a plein de pays où il n'y a pas de loi de bioéthique.
Pierre-Henri Gouillon, il y a encore de grandes aires culturelles où on n'aborde pas les choses de la même façon.
Il y a d'énormes différences selon les cultures. Ouais. Et ne serait-ce que, pour pas aller chercher dans les pays asiatiques où effectivement la philosophie peut être très différente de la nôtre, mais aux États-Unis, par exemple, il y a énormément de choses qui ne sont pas autorisées dans le secteur public, mais qui sont autorisées dans le secteur privé. C'est-à-dire que c'est assez dit. Ici, vous n'avez pas le droit de faire certaines choses si vous êtes un chercheur dans un laboratoire public, mais si vous êtes un chercheur dans un laboratoire privé, non plus, vous n'avez pas le droit. Alors qu'aux États-Unis, il y a des tas de choses que les chercheurs du public n'ont pas le droit de faire, mais que les chercheurs du privé ont le droit de faire.
On ne régule pas de la même manière en fonction des pays. C'est clair. C'est l'idée, oui.
Alors, il y a quand même des traités internationaux, parce que, par exemple, sur la question de la recherche sur l'embryon, qui fait référence à ce qui vient d'être évoqué, la France est signataire de la Convention d'Oviedo, qui a été signée et ratifiée par 29 autres pays européens, qui interdit le fait de faire des modifications génétiques sur un embryon qui peuvent être transmises aux générations suivantes.
Est-ce que, Pierre-Henri Gouillon, et je rebondis sur ce que vous disiez, en fait, est-ce qu'au nom de la bioéthique, on peut interdire à la science ou à la recherche médicale d'explorer certains domaines ? Est-ce que ce n'est pas le rôle de la science d'explorer des choses qui sont rendues possibles techniquement ?
C'est une excellente question et je pense qu'on n'a pas de réponse définitive de ça. Pour le moment, je pense qu'on peut dire que on ne peut pas interdire aux scientifiques de se poser certaines questions. Peut-être que c'est une erreur et peut-être que les scientifiques devraient être capables de s'interdire eux-mêmes de se poser certaines questions. Par exemple, on peut craindre ce qui se passera avec certains progrès de la prédictibilité de ce que peut être un individu en fonction de son génome. On peut craindre. Il y a un film qui s'appelle Bienvenue à Gattaca qui montrait bien les dérives possibles et pour le moment, on y va. On y va, il n'y a rien qui nous empêche d'y aller. Donc peut-être que les chercheurs devraient eux-mêmes s'interdire de poser certaines questions. Ceci dit, ce qui peut être interdit à la science, en revanche, c'est certaines pratiques. On n'a pas le droit de faire n'importe quelle expérience sur n'importe quel être humain, mais ni même d'ailleurs sur n'importe quel animal. Enfin, ça dépend des animaux. Mais pour le moment, on n'interdit pas les questions, mais on interdit les méthodes pour obtenir les réponses.
Catherine Bourguin, là aussi, c'est une question difficile. Si un chercheur spécialiste dans tel ou tel domaine a l'intuition que s'il va dans ce sens-là, ça pourra améliorer la vie de certaines personnes, les soigner, comment interdire une chose comme ça ?
Alors d'abord, il y a deux choses. La première, c'est que c'est une activité humaine, la recherche. Et comme toute activité humaine, il y a des règles. Donc certaines encadrent la façon de faire de l'expérimentation animale. D'autres interdisent de travailler sur certains types de tissus vivants. Bon, donc moi, je pense que le fait de poser des règles et de dire qu'il y a des choses qui sont autorisées et d'autres qui ne le sont pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, pourquoi ça ne pourrait pas continuer ? La deuxième chose fondamentale dans la recherche, c'est que ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on finance comme recherche. Et c'est sûr que plus on finance certaines recherches, plus on a des chances que des choses soient trouvées dans cette direction-là. Et donc, dès lors qu'on décide qu'on veut autoriser la recherche sur l'embryon, par exemple, et qu'on met des moyens pour la développer, il va se passer des choses dans ce champ. Si au contraire, on considère que c'est pas une priorité, qu'on veut essayer de sauver autrement, de prendre soin, moi je dirais d'ailleurs, autrement des personnes qui sont atteintes de certaines pathologies, et qu'on met des financements dans d'autres directions, et ben on va trouver d'autres choses, parce que la recherche, quel que soit le domaine que l'on considère, si on met des moyens intellectuels et financiers, on trouve des choses.
Je vous pose la question à tous les deux, à vous qui êtes spécialistes de génétique. Est-ce que ce domaine touche à la nature humaine, ou est-ce que c'est d'être humain, ou est-ce que vous y voyez uniquement une possibilité de soigner des maladies qui ne se soignent pas aujourd'hui? Est-ce que quand on touche au génome, on touche à la nature humaine, Pierre-Henri Gouillon?
Alors moi, je répondrais que non. Le génome, c'est un des constituants de n'importe quel être vivant, y compris les humains. Et l'autre constituant, d'ailleurs, c'est l'environnement dans lequel cet être se développe. Or, ce qui est d'ailleurs remarquable, c'est qu'on est extrêmement inquiet dès qu'on dit qu'on va toucher à un petit bout du génome, alors qu'on fait vraiment n'importe quoi avec l'environnement. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, effectivement, les problèmes sont plus du côté de ce qu'on fait avec l'environnement. Je suis certain que le fait de donner, par exemple, des tas de machins avec des écrans aux enfants très jeunes, c'est catastrophique, et je suis pas le seul à penser ça, et pourtant on continue à le faire, parce que, encore une fois, il y a toute une idée du progrès et des moyens financiers énormes qui sont mis là-dessus. Donc, je pense que ça s'agit pas du tout de l'essence même de l'être humain, il s'agit de composantes qui vont jouer sur ce que nous sommes. Mais, évidemment, il y a aussi autre chose, c'est que il y a un aspect de la perception de ce qu'est de l'individu par lui-même et de la société par l'individu. Or, excusez-moi, je voudrais vraiment développer un peu une idée là.
Allez-y.
Je pense que notre société a un espèce de complexe de supériorité de toute puissance. Et nous sommes, dans nous, les riches, hein, les pays riches, et particulièrement les riches dans les pays riches, nous vivons comme si jamais tous nos désirs devaient être exaucés, comme si jamais on avait le droit d'exaucer chaque désir, et comme si jamais tout le système était là pour exaucer nos désirs.
Éliminer la frustration, en fait.
Voilà, vous parlez de soigner des gens, mais soigner des gens, c'est qu'une toute petite partie des choses. Si jamais, et puis quand est-ce, à quel prix vous soignez des gens? Est-ce que vous pouvez fabriquer un individu, un être vivant qui serait un résultat d'une sorte de clonage pour pouvoir fournir des organes à un autre? Ça serait soigner des gens, ça, et ça pose pas de problème. Est-ce que on peut comme ça faire n'importe quoi aussi parce que certaines personnes n'ont pas certaines capacités physiques? Est-ce que du coup, il faudrait autoriser tout pour? Est-ce que moi, si je veux courir le 100 mètres en moins de 9 secondes, du coup, je dois avoir le droit de mobiliser toutes les possibilités de la biomédecine pour y arriver? Ben non, j'ai des limitations et je dois les accepter. Les humains ont des limitations, ils doivent les accepter. Alors, les gens très riches, en plus, une limitation qu'ils supportent pas du tout, c'est le fait de devoir mourir. Et donc, aujourd'hui, on voit apparaître des folies totales de gens qui veulent absolument mettre toute leur fortune pour essayer de trouver le moyen de ne jamais mourir. Et ben ça, c'est la folie. Et je pense qu'il y a un vrai problème de philosophie, de perception de l'individu par lui-même qui est totalement délétère dans nos sociétés à l'heure actuelle.
On va en reparler, mais je vais reposer ma question à Catherine Bourguin, parce que j'aimerais avoir son avis. Ça ne change pas la nature humaine de travailler ou de toucher à l'ADN d'une personne?
Alors, moi je pense que, et notamment si on revient sur l'embryon, parce que pour le coup, là, cette question se pose beaucoup aujourd'hui sur l'embryon, il faut faire attention parce qu'il y a la conception qu'on peut avoir comme scientifique, et d'ailleurs tous les scientifiques ne vont pas avoir la même conception. Quand on est généticien, on a un certain rapport à l'ADN, quand on est spécialiste de biologie, de la reproduction, on a un certain rapport à l'embryon. Mais l'embryon, l'enfant, le fœtus, etc., il existe dans la société indépendamment de ce qu'il est pour les scientifiques. Et il n'y a pas de raison que la signification des scientifiques s'impose à celle qui accourt dans la société. Parce que la vie, c'est pas simplement le regard que posent dessus les scientifiques, même si évidemment qu'il est intéressant et qu'il enrichit la société, le regard des scientifiques. Mais c'est extrêmement important de... est-ce que c'est à nous de dire ce qu'est la nature humaine en tant que scientifique? Moi, je crois que c'est pas à nous plus à le dire, que c'est quelque chose qui doit résulter de points de vue divers. Le point de vue des scientifiques est important, mais il ne doit pas dominer parce que l'embryon n'est pas que ce qu'il représente pour des gens dont c'est le métier, en fait, de jouer avec des cellules, éventuellement de jouer avec des gènes, etc. Donc on n'a pas du tout le même rapport. Or, ces objets nous dépassent. Ces objets ont une vie dans la société qui nous précède et qui nous succédera.
Ce que vous nous dites, c'est que les scientifiques, même s'ils sont très performants, ne sont pas forcément ne doivent pas être considérés comme des oracles, c'est presque ça.
Oui, parce que c'est une certaine vision sur le vivant qui peut encore une fois avoir des utilités, qui en a de très variées d'ailleurs en fonction des... Voilà. Mais le vivant ne se résume pas à ce que les scientifiques, chacun dans leur discipline, peuvent en dire.
C'est vrai que... Pierre-Henri Gouillon. On peut dire que les scientifiques ont un peu pris la place des prêtres dans la société aujourd'hui.
C'était là où je voulais en venir, évidemment, sans le dire, mais voilà.
Ben voilà, disons-le, hein. Et que du coup, quand on a un problème, on s'adresse aux scientifiques. La preuve, d'ailleurs, on est là pour ça. Et ce qui est pas normal, c'est ceux qui n'ont pas su prendre la place des prêtres, c'est les philosophes entre nous. Parce que c'est vrai que ces questions sont quand même d'abord des questions de philosophie. la morale fait partie de la philosophie, etc. Et aujourd'hui, la philosophie n'a pas réussi à s'emparer suffisamment, et à s'emparer suffisamment bien d'ailleurs, de ces questions, pour que ça soit à partir de considérations philosophiques qu'on essaye de régler ces problèmes.
Alors, Catherine Bourguin et Pierre-Henri Gouillon l'évoquaient il y a un instant. Depuis quelques années, il y a un courant de pensée qui se développe et qui s'appelle le transhumanisme et qui se propose, grâce à la science, aux technologies, de donner à l'être humain des possibilités qu'il n'avait pas avant, vivre plus longtemps, voire indéfiniment, certains en parlent, voir dans le noir, coupler son cerveau via une puce avec de l'intelligence artificielle, des choses qui seront, ou qui sont peut-être même techniquement possibles dès maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, moi, je ne sais pas si c'est techniquement possible, mais ce que je constate, c'est beaucoup de promesses qui mettent en mouvement beaucoup de capitaux privés et publics, et qui ont un effet majeur sur l'orientation des formes de recherche que l'on produit, des questions, encore une fois, hein, qu'on finance dans la recherche. Et donc, c'est une façon de concevoir, et je suis d'accord avec ce que disait Pierre-Henri Gouillon tout à l'heure, c'est une façon de concevoir ce que c'est que le progrès pour notre société. C'est dans cette direction-là qu'on est poussé, peu ou prou, à aller, à essayer de faire des façons d'augmenter, on parle d'hommes augmentés aussi, hein, de développer des nouvelles prothèses, des nouvelles machines, des nouvelles modifications génétiques même, du reste, qui seraient censées peut-être un jour nous permettre de... On n'a pas tellement d'éléments qui permettent de penser qu'on va vraiment pouvoir vivre tant plus longtemps que ça. D'ailleurs, les données laissent plutôt penser qu'il y a peu de chances que ça marche. En revanche, ça oriente beaucoup des savoirs que l'on produit et des technologies que l'on produit. Et ça, c'est une vraie question de priorité dans nos sociétés.
Pierre-Henri Gouillon, là-dessus.
Oui, je pense que Catherine Bourguin soulève un problème vraiment très important. C'est l'orientation des recherches à l'heure actuelle, qui est terriblement dominée par ce genre de questions. Et effectivement, le transhumanisme... je pense qu'il y a effectivement une part de rêve qui est vendue par des gens totalement incompétents en plus, hein. L'un des plus connus, c'est un gars qui connaît rien du tout à la science et particulièrement à la génétique et qui raconte des énormités en permanence. Je ne le citerai pas ici, mais ce qu'il faut voir, c'est que le problème, c'est que si jamais certains de ces progrès deviennent progrès entre guillemets, hein, deviennent possibles, eh bien, on va avoir des difficultés. Je discutais cet après-midi encore avec mes étudiants, je leur demandais, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on vous implante une puce dans le crâne pour que vous puissiez interroger Google à distance? Et ils m'ont tous répondu non, parce qu'ils étaient étudiants déjà rentrés dans l'école normale supérieure ou à l'agro. Mais je leur ai dit, si vous étiez en prépa, que vous aviez un concours à passer et que certains avaient la puce et vous pas, qu'est-ce que vous feriez?
C'est du dopage.
Ils auraient plus la possibilité de ne pas avoir cette puce, évidemment. Donc, c'est ce que montre bien le film Gattaca. Ces progrès, le malheur, c'est qu'ils créeront du handicap pour ceux qui les auront pas et qu'en réalité, il y aura aucun moyen de les refuser. Donc, soit ils sont refusés collectivement, soit tout le monde sera obligé d'y passer, sauf ceux qui pourront pas, alors qu'eux deviendront des vrais handicapés. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir, beaucoup plus que ce qu'on a actuellement, où en fait, c'est le marché qui décide.
Ces projets sont portés par des entités très puissantes, des patrons des GAFA, pour ne pas les nommer. Est-ce qu'on peut, face à ces énormes machines, qui sont aussi des projets politiques, Catherine Bourguin, est-ce qu'on peut les en empêcher ?
Je ne sais pas si on peut, mais on a un devoir de résister, ça c'est sûr, comme toujours. Si on ne se mobilise pas et si on ne s'organise pas collectivement, on laisse aux générations futures un monde...
Oui, le risque, il y a déjà des inégalités dans les traitements médicaux, mais ça, c'est que ce soit... qu'il y ait deux classes d'êtres humains, c'est presque ça, Pierre-Henri.
Ça va devenir monstrueux. Effectivement, j'aime beaucoup le mot de Catherine Bourguin, résister. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais été content de faire ce livre avec Miguel Benassayac, qui a été résistant en Argentine et qui a connu la torture. Donc, je pense qu'actuellement, c'est ça notre devoir.
Merci beaucoup, Pierre-Henri Gouillon. Merci à vous, Catherine Bourguin, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour. Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Joé Fonfrenier. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.